Le grand face-à-face en direct est jusqu'à 14h avec au sommaire de l'émission ce dimanche le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann et vers 13h30, retour sur la déflagration politique de la fin de la semaine, les accusations d'agression sexuelle contre le numéro 3 du gouvernement, le magazine L'Hebdo en a fait l'affaire. Nicolas Hulot, l'avocat Jean-Pierre Mignard y voit le triomphe d'une société de rumeurs. Vomitoire, c'était son verdict, et si ce n'était pas le fin mot de l'histoire, nous ouvrirons le débat avec Jean-Pierre Mignard qui sera notre invité dans une quinzaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Comme tous les dimanches, on revient avec vous sur les temps forts de la semaine. Et pour commencer, c'était mardi dernier, le président de la République se rendait en Corse. Une visite chargée d'émotions avec l'hommage au préfet Claude Erignac. Visite qui est vite devenue très politique. Emmanuel Macron qui était attendu de pied ferme par les élus corses. Et voici ce qu'il leur disait.
Personne ne vous reprochera de vous dire Corse mais Français. Corse et Français. Corse parce que Français. Français parce que Corse et Européen, dans cette identité indissociable, se trouve la puissance de vos lendemains.
Voilà ce que disait notamment Emmanuel Macron. La républicaine que vous êtes, Natacha, aurait dû être satisfaite. Et puis vous avez publié un papier dans le Figaro, c'était hier, en accusant le président de néocolonialisme. Rien que ça.
Rien que ça, oui, parce qu'il n'y avait pas que cette citation. D'abord, il y a eu l'hommage au préfet Erignac, qui était nécessaire. Et il était nécessaire de dire fermement à quel point ce moment de l'histoire de France était absolument ignoble. Sauf que ce moment-là avait justement décrédibilisé la violence et ouvert la possibilité d'autre chose. Or, je pense qu'on ne peut pas tout simplement faire comme s'il n'y avait pas une aspiration démocratique qui se manifeste de façon spécifique en Corse, étant donné l'histoire de la Corse, mais qui se manifeste un peu partout dans le pays. Or là, ce qu'a fait le président de la République, c'est d'imposer une fin de non-recevoir, tout simplement.
Néocolonialisme.
Rien, aucune réflexion sur les aspirations démocratiques qui font que justement des citoyens peuvent demander exactement ce qu'il dit dans la citation que vous avez mis, d'être à la fois Corse, Français, c'est-à-dire des strates identitaires qui permettent de préserver la volonté de se construire un destin en commun, mais de choisir ce destin. Or, non, ce qu'Emmanuel Macron leur a expliqué, c'est qu'ils étaient des méchants ringards, qu'ils étaient du côté de la fermeture plutôt que de l'ouverture, qu'ils ne pensaient pas au métissage, c'est-à-dire des espèces de poncifs pour décrédibiliser absolument toutes les demandes. Je ne suis pas pour qu'on réponde aux demandes des nationalistes parce qu'elles sont anticonstitutionnelles. En revanche, ne même pas réfléchir aux problèmes qui sont posés là, me semble d'une pauvreté incroyable.
Avant d'écouter Raphaël, d'un mot, la Corse est une colonie française ?
Non, c'est pas ça que je veux dire. Je ne pense pas que la Corse soit une colonie française. Je pense en revanche que la façon dont le président de la République s'est adressé aux Corses les mettait dans cette position-là et ça me semble une erreur absolument fatale.
Raphaël Glucksmann.
Alors, même si j'emploierai pas le mot néocolonialisme.
Je ne l'emploie pas non plus dans le papier. C'est une traduction d'Ali.
C'est un titre.
J'ai choisi de ne pas l'employer.
Okay. Le mot. Bon acte.
Vraiment, je pense qu'il y a là une occasion un peu manquée parce que le candidat Emmanuel Macron était un candidat qui parlait de pacte girondin, qui parlait de rompre avec les habitudes d'une république centralisatrice, qui était donc censé incarner un souffle nouveau. Et ce souffle nouveau pouvait rencontrer un autre souffle nouveau qui est effectivement lié au rejet après l'assassinat abject du préfet Erignac de la violence et le souffle nouveau qui est incarné par Monsieur Simeoni qui n'a plus rien à voir avec les espèces de cagoulés qui
n'appellent
la cause corse. Et donc il y avait là la possibilité de discuter sérieusement d'une nouvelle approche et d'un nouveau contrat d'inspiration girondine qui serait une forme de rupture avec un jacobinisme d'État français et malheureusement ça a pas été exprimé par
il aurait par exemple Macron, fallu écouter la revendication de faire du Corse une langue officielle au même titre que le français.
Venir avec des contre-propositions aux revendications nationalistes pour qu'il puisse y avoir ensuite un dialogue qui soit basé sur autre chose qu'une approche où on réaffirme de manière constante un jacobinisme qui pourtant n'était pas ce que Macron incarnait pendant la campagne électorale.
Une large majorité des Français approuve le président de la République. C'est un sondage Odoxa pour le Figaro et France Info qui le dit. 2 sondés sur 3 sont opposés à un statut de région autonome pour la Corse.
Bien sûr, parce que beaucoup de Français en restent à l'idée que des mafieux et des terroristes corses ont pourri la situation pendant des années. En revanche, je pense qu'ils oublient de réfléchir au fait que ce qui s'est dit dans les urnes en Corse se dit un peu partout ailleurs d'une autre manière. C'est-à-dire à chaque fois, c'est le besoin pour les citoyens d'exprimer leur appétit de démocratie.
Ça s'est fait en Corse à travers la diversité dans la République,
mais bien sûr.
À la diversité et à la possibilité d'affirmer que par le local, on peut atteindre aussi l'universel.
Mais bien sûr, Raphaël Luxman. Et surtout,
vous êtes à deux doigts, Natacha, de vous faire accuser de communautarisme.
Non.
Ce serait paradoxal.
Je peux y répondre. Non,
justement, vous allez y répondre, Raphaël, puis vous nous expliquerez
non,
ça.
Non, c'est la capacité d'avoir un rapport multiple et complexe à l'identité. Et c'est ça qui est raté dans ce discours, c'est que la République est une et indivisible. Elle ne veut pas des citoyens. Elle ne veut pas des citoyens unidimensionnels, cette République, à moins qu'elle soit absolument jacobine, ce qui n'est pas le cas de la République française telle qu'elle a été fondée. Il y avait des Girondins et des Jacobins et ça a été une grande discussion et parfois qui se tranchait à la guillotine. Mais le fait est qu'on peut être à la fois très attaché à son identité locale, très attaché à la France, à la République française, et très attaché à son identité européenne. Qu'on peut avoir 3 attachements qui peuvent se matérialiser dans des prérogatives distinctes, et c'est le sens de l'histoire, et c'est le sens même, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est le sens même de ce que pouvait incarner Emmanuel Macron, candidat décomplexé, libre, et voire libéral, assumé. Et c'est ça qu'il ne veut plus faire, parce qu'il veut être Jupiter, qui incarne l'autorité de l'État, une autorité forcément verticale, qui tend à crisper les
contre les communautaristes comme Natacha Polony.
Alors, Ali, plusieurs choses. D'abord, la mention du français comme langue de la République, ça vient de Jacques Toubon et Alain Lamassoure pour lutter contre les anglicismes, vous voyez. Et c'est aujourd'hui utilisé pour oublier que, certes, le français et la langue de la République, mais pour autant, il y a une richesse des langues en France qui traduit la richesse de la diversité historique et géographique de la France. Et qu'il serait totalement dommage que la France se prive de cela, dans la mesure où, si on se reporte par exemple à Jules Ferry...
Le Corse est enseigné dans les écoles, en Corse.
Mais bien sûr, sauf qu'il faut permettre aux Corses de survivre comme langue, ce qui est important parce que c'est une richesse pour la France. Et tout simplement, Jules Ferry n'était pas tout à fait communautariste, et pour autant, il incitait à s'appuyer sur l'amour des petites patries pour ensuite mener vers l'amour de la patrie. Il me semble que c'est une conception du rapport entre l'un et le multiple qui me semble assez intéressante.
À condition que cet amour des petites patries soit ouvert.
Mais bien sûr.
Or ce que nous propose, quand on l'écoute, Simeoni, par exemple, c'est pas un amour fermé et un esprit de clocher absolument hostile à ce que pourrait représenter la France. Donc il y a une matière là à discuter.
France Inter. Natacha Polony. Raphaël Luxman, le duel.
Raphaël, ce que vous retenez de l'actualité et de la semaine notamment, c'est la vague de froid qui s'est abattue sur la France et ses conséquences pour les sans-abri et ce qu'ont déclaré certains politiques.
Voilà, ce que je retiens, c'est cette série de phrases qui, moi, m'ont particulièrement choqué cette semaine. Tout a commencé par Sylvain Maillard, député de La République En Marche, qui nous explique que les sans-abri qui sont dans la rue y sont parce qu'ils ne veulent pas s'abriter. Puis Gérard Collomb, parlant des mineurs migrants isolés, qui nous explique que s'ils restent à la rue, c'est qu'ils ne veulent pas d'accueil. Ou le ministre de Normandie, qui nous explique qu'il n'y a que 50 sans-abri la nuit à Paris. Donc, quelqu'un qui est aussi peu gauchiste que Louis Gallois, dans le journal du dimanche, s'en offusque, et il a bien raison. Pourquoi toute cette série de phrases, alors que la France connaît ce grand froid, et que nous témoignons tous, en marchant sur nos trottoirs, du fait que l'objectif fixé par Macron de 0 personnes qui dorment dehors, est démenti par les faits. Pourquoi cette série de phrases? Est-ce que c'est juste pour couvrir le chef qui avait annoncé un objectif qu'il n'a pas tenu? Ou est-ce que ça... ou est-ce que ça dit quelque chose de plus profond du
le chef, c'est Jupiter, Emmanuel Macron, ouais, qui déclarait en juillet dernier, je le cite, « Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes voilà, dans les
donc,
rues. »
Donc là, il y a de la neige et il y a aussi des hommes et des femmes dans les rues. Et est-ce que ça dit quelque chose de plus profond? Est-ce que ça dit quelque chose d'un manque d'empathie, d'une forme d'arrogance de ces winners, de ces gens qui sont des adeptes du « si tu veux, tu peux » et qui nous expliquent donc que si les gens sont dans la rue, c'est qu'ils le veulent bien. Alors, le nouveau monde qu'on nous avait promis, vu des trottoirs, il a proprement une sale gueule. Et c'est pas en niant la misère comme ils le font dans ces phrases qu'on va s'attaquer à la misère. Et donc moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est faites attention, chers amis de la Macronie, parce que cette arrogance-là, cette manière de ne pas voir, de ne pas voir ce que subit l'autre, eh bien, c'est extrêmement dangereux pour vous et pour la France.
Je pense qu'il faut justement dans ce domaine-là entrer dans la complexité. Par exemple, il y a certains SDF, et ce n'est certainement pas la majorité, qui ne veulent pas aller en centre d'hébergement la nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils s'y font voler leurs affaires, ils s'y font agresser. Mais quand ce sont des femmes, c'est encore pire. Et dernier point, il y a une question psychiatrique. La psychiatrie vit aujourd'hui une situation absolument dramatique en France, avec une absence totale de moyens pour accueillir. Or, nous avons parmi les sans-abri en France beaucoup de gens qui, en fait, devraient être suivis et soignés, et qui ne le sont pas, et ça participe de leur descente aux enfers et du fait qu'ils ne peuvent pas se réintégrer.
Il faut absolument dire ça, la psychiatrie, c'est
un domaine crucial.
Vous avez raison, mais moi, ce qui m'intéresse dans ces phrases, c'est comment on prend certains cas pour en faire une loi générale, donc s'exonérer de toute question politique. Et ça, c'est absolument, à mon avis, désastreux. C'est-à-dire que l'ensemble des associations qui travaillent sur le terrain, qui font des maraudes, nous expliquent que quand on appelle les numéros d'urgence, eh bien, 70% des cas, ça ne décroche pas. Et que donc les gens ne choisissent pas de dormir dehors. Ils sont contraints de dormir dehors. Et d'autre part, puisqu'on on est dans une logique, si on écoute le président de la République, d'ouverture sur ce qui se fait ailleurs dans le monde, généralement c'est un argument qui est utilisé pour renier sur les droits sociaux, eh bien on pourrait s'inspirer de ce qui s'est passé par exemple en Finlande. En Finlande, un pays européen, eh bien on a accompagné les sans-abri vers un logement pérenne. Et finalement on s'est rendu compte de quoi en leur fournissant des logements aux sans-abri? Eh bien, on s'est rendu compte qu'à la fin, ça coûtait moins cher à la société. Parce que ça coûtait beaucoup moins cher en frais d'hospitalisation, en frais de justice, et que donc, il y avait dans le pari de la solidarité, quelque chose qui, en plus, pouvait faire en sorte eh bien, d'économiser de l'argent. Donc, c'est pourquoi ce pari-là n'est pas tenté chez nous?
C'est une bonne question, elle est posée, elle est ouverte. Et puis cette semaine aussi, il y a eu cette jeune fille, Menel Ibtissem, candidate de The Voice sur TF1, qui a choisi de quitter l'émission. Une histoire qui raconte beaucoup plus de choses qu'une simple histoire, un simple épisode dans la vie d'un télécrochet.
Salut, shalom, salam. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. J'ai donc pris, aujourd'hui, la décision de quitter cette aventure.
C'était la voix de Menel Ibtissem, d'abord dans The Voice, chantant Alléluia en anglais et en arabe, ensuite dans une vidéo qu'elle postait sur Facebook vendredi dernier, une candidate mise en cause pour des tweets au moment des attentats de Nice, accusée de complotisme et de sympathie pour les thèses de Tariq Ramadan, et une histoire, Raphaël Glucksmann, qui vous a alerté.
Oui, parce que elle n'était pas candidate à la députation. Elle n'était pas candidate à diriger mon pays ou à faire des éditoriaux dans les médias publics. Et donc, elle était une chanteuse. Bien sûr,
elle l'est toujours.
Elle est toujours, mais une candidate à The Voice. Bien sûr que ses tweets sont abjects de complotisme. Bien sûr qu'elle a fait fausse route. Bien sûr aussi que c'est complètement fou qu'on se retrouve dans une situation où une candidate à The Voice se voit scrutée et l'objet d'une campagne de dénigrement, alors même que dans des médias d'information, pas des émissions de divertissement comme celle de TF1, dont je n'avais rien à foutre avant de la découvrir à travers cette affaire, eh bien, dans des médias d'information, on a des chroniqueurs comme Zemmour qui sont payés pour débiter du révisionnisme pétainiste. Et donc là, il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que on va aller faire une campagne sur une jeune chanteuse et finalement l'acculer à disparaître. Et moi, je trouve que c'est extrêmement triste ce qui se passe.
Natacha Polony.
Je pense que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, même si ce n'est qu'une affaire de télécrochet. Pourquoi ? Parce que cette jeune fille est assez représentative de ce que peuvent penser et ressentir beaucoup de jeunes gens de confession ou même de culture musulmane en France, c'est-à-dire cette espèce de réflexe complotiste que je déplore, qui est absolument lamentable, mais de fait, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Deuxième chose, il y a cette idée chez beaucoup de jeunes gens de confession musulmane que les musulmans seraient maltraités en France et les islamistes en jouent. Écoutez ce que Salah Abdeslam a dit lors de son procès. Les seules phrases qu'il a prononcées avant de se murer dans le silence, c'était justement pour faire passer une fois de plus ce message-là. Les musulmans sont victimes et maltraités.
Mais quoi de commun entre cette jeune fille et Salah Abdeslam ?
Non. Je dis que ce qu'elle est en train de subir risque de donner raison à Salah Abdeslam et c'est très grave. C'est-à-dire qu'elle est... Elle a le droit. Je déplore qu'elle adhère aux thèses de Tariq Ramadan parce que je pense que ces thèses sont dangereuses et que beaucoup de jeunes gens ne s'en rendent pas compte. Simplement, c'est pas comme ça qu'on combat la diffusion des thèses de Tariq Ramadan. Et je pense que cette jeune fille, en effet, comme l'a dit Raphaël, est chanteuse. Elle est là pour chanter. Elle le fait très bien. Et des gens qui disent des stupidités parce que ce n'est pas leur métier d'émettre une pensée politique, il y en a beaucoup. Je ne vois pas pourquoi elle devrait subir cela et ça risque d'avoir des conséquences vraiment très dommageables pour la société française dans son ensemble.
Raphaël Lussmann, avant d'accueillir notre invité Jean-Pierre Mignard.
Justement, elle n'est pas Tariq Ramadan.
Exactement.
Et on peut, oui, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas Tariq Ramadan. On peut accuser les gens qui ont fait preuve de cécité vis-à-vis des idées de Tariq Ramadan de faire preuve de cécité. Là, on parle d'une chanteuse. Et donc, quel effet ça va produire ? Je suis d'accord, ça va produire un effet d'exclusion, de sentiment d'exclusion décuplé, et au lieu d'avoir une grande discussion justement sur le complotisme, d'ailleurs qui n'est pas le propre juste des jeunes musulmans, puisque une étude récente du Fonds de la Fondation Jean Jaurès est alarmante sur l'état du complotisme dans la jeunesse française en général, mais au lieu d'avoir une discussion sur le complotisme, au lieu de trouver ensemble comment on va combattre cette idéologie et cette tendance complotiste, eh bien on fait d'une jeune chanteuse un épouvantail, un bouc émissaire, et finalement une martyre de l'exclusion. Et donc c'est à mon avis complètement contre-productif et extrêmement nocif.
Dont acte,